Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinelle, un programme Maurice Clément Fèvre. Notre artiste à présent s'est immergé complètement dans la gravure, au point de recevoir l'admiration de ses pairs. Avec ses dernières productions, elle s'attire des sympathies, mais aussi les sarcasmes de certains journalistes. Prenons notre plaque de cuivre, la pointe d'acier, et installons-nous chez Mary Stevenson Cassatt. Si Mary reçoit encore des critiques sur ses créations en France, sa renommée, par contre, aux États-Unis s'en trouve confirmée. Grâce à ses expositions à Philadelphie et New York, elle est déjà reconnue en tant que remarquable graveuse. En effet, dès le 7 avril 1989, dans le Chicago Tribune, il est écrit
« Avec la pointe à graver, Miss Cassatt dépasse désormais toute autre femme en activité. »
Durant ces années 89-90, elle produit à la pointe sèche quelques scènes maternelles. Femme portant un enfant ou le dos de bébé. Il existe une variante au pastel et fusain, à la fenêtre ou jeune femme portant un enfant nu. Ce dessin fut retrouvé après la Seconde Guerre mondiale et attribué en 1949 au musée du Louvre et à Orsay aujourd'hui. Puis, femme tenant sur ses genoux un enfant auquel elle met ses bas. Repos. Elle fixe aussi des jeunes femmes à leurs occupations, dans le thé, réflexion, la femme à la mandoline ou jeune femme se coiffant. Un tirage de ses gravures se trouve au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France. N'oublions pas, bien sûr, aussi la leçon ou la carte. Cette gravure est représentée sur la couverture du journal « L'art dans les deux mondes » créé par Durand-Ruel. Cet hebdomadaire ne sera diffusé que pendant 2 ans environ, puisqu'il ne remportera pas de succès. Ce premier numéro du 22-11-90, en vente le samedi au prix de 50 centimes, a pour but de mettre en avant les artistes peintres, aussi bien en Europe qu'en Amérique, et les faire connaître de cette manière aux collectionneurs. D'ailleurs, Paul Durand-Ruel s'en explique ainsi.
En fondant l'art dans les deux mondes, nous poursuivons un double but. Tout d'abord, publier une série d'études rétrospectives sur les maîtres anciens et suivre non seulement en Europe, mais en Amérique, l'art moderne dans toutes ses transformations.
Quelques lignes sont dédiées à Miss Cassatt en ces termes.
Les femmes qui font de la peinture sincère sont rares. Aussi, sommes-nous heureux de saluer dans ce premier numéro du journal consacré à l'art la personnalité vigoureuse de Miss Cassatt.
Des journalistes connus y écrivent leurs chroniques, tels Émile Zola, Marcelin Desboutin, Gustave Geffroy, Octave Mirbeau, Armand Sylvestre, entre autres.
Que décrit cette gravure ?
La carte représente 2 jeunes filles assises, penchées autour d'une table ronde sur une leçon à apprendre. Les 2 adolescentes, bien tracées, grâce aux effets plus ou moins foncés de la pointe sèche, s'opposent à la simple courbe de la table et contour des feuilles. Suite à l'exposition, le directeur de l'école des beaux-arts, Gustave Larounet, va acquérir des gravures, y compris celles de Mademoiselle Cassatt. Georges Lucas en fait de même pour sa collection et celle de Samuel Avery.
Une visite constructive.
Au printemps 90, a lieu à l'école des beaux-arts une présentation d'estampes japonaises organisée par Siegfried Bing, galeriste. Mary Cassatt s'y rend avec Berthe Morisot, Edgar Degas. Elle y admire les œuvres du Tamaro, de Tokokumi. Elle rencontre l'écrivain et critique Philippe Burti, qui l'incite à produire de telles œuvres. Prête à relever le défi, Mary va s'atteler à la création de 10 estampes en couleur par les techniques de la pointe sèche, de l'aquatinte ou de l'eau forte, à l'inverse des orientaux, utilisant la gravure sur bois. Elle consacre son été 90, passé à Septeuil, à l'ouest de Paris, et tout l'hiver à travailler. Degas, qui se soucie de la solitude de Mary, veut lui offrir un animal et demande son avis à Ludovic Napoléon Lepic.
C'est un chien jeune, tout jeune qu'il lui faut pour qu'il l'aime.
Batty accompagne sa maîtresse lors des séjours à la campagne, à Marly, Louveciennes. Camille Pissarro, qui a vu les estampes en couleur en avant-première, raconte le 3 avril 91 à son fils Lucien.
Je pense qu'il est nécessaire, pendant que je suis bien imprégné de ce que j'ai vu chez Miss Cassatt, où je suis allé hier, que je te parle des gravures en couleur qu'elles ont exposées chez Durand-Ruel. Tu te rappelles les essais que tu as faits à Erani ? Eh bien, Miss Cassatt l'a réalisé admirablement. Le ton mat, fin, délicat, sans salissure ni bavure, des bleus admirables, des roses frais. Que nous manquait-il donc pour réussir? Du reste, c'est convenu avec Mademoiselle Cassatte de faire ensemble des séries. Si nous pouvions faire de belles gravures en couleur, ce serait un grand point.
Discrimination positive.
Lors de la troisième exposition des peintres graveurs de 1891, l'association émet une restriction à ses statuts en accueillant désormais que les artistes de nationalité française. Elle devint donc la Société des peintres graveurs français. De ce fait, Camille Pissarro et Marie Cassatte s'en trouvent complètement exclus. Qu'importe, des expositions particulières vont avoir lieu dorénavant chez Durand-Ruel pour Pissarro et Cassatte. Dans une salle à côté, Marie présente d'une part quatre tableaux à l'huile et pastel et d'autre part ses 10 eaux-fortes en couleur. Ces dernières produisent un grand effet autour d'elle et la confortent en tant qu'excellente graveuse parmi ses collègues Degas et Pissarro. Par contre, le public et certains peintres semblent apprécier moyennement cette nouvelle manière de peindre. En effet, il y a des jalousies masculines auxquelles Marie Cassatte n'échappe pas parmi ses confrères, tels Zando Meneghi ou le graveur Bartholomé, car son espace reçoit plus d'attractivité que celui des peintres graveurs français. Les moqueries ou les plaisanteries assassines circulent lors de la rencontre le lendemain chez Albert Bartholomé. Heureusement, Marie sait pouvoir compter sur le soutien de Camille Pissarro. Elle reconnaît en lui un pédagogue éclairé et déclarera plus tard. Il était un si bon professeur qu'il aurait pu apprendre à dessiner aux pierres. Allons découvrir de ce pas comment la graveuse procède dans son atelier. Elle détaille à Samuel Avery sa technique d'impression, aidée de l'imprimeur Leroy.
L'instant pratique.
L'impression représente un gros travail. Parfois, nous travaillons tous deux toute la journée, autant que nous pouvions, sans imprimer plus de 8 à 10 épreuves dans la journée. Ma méthode est très simple, je dessinais un contour à la pointe sèche et le transférais sur deux autres plaques, utilisant ainsi 3 plaques en tout, jamais plus pour chaque épreuve. Ensuite, je posais l'aquatinte partout où la couleur devait être imprimée. La couleur était peinte sur la plaque comme elle devait apparaître sur l'épreuve. Elle devait tirer 25 épreuves de chaque estampe réalisée en couleur, mais il est plus vraisemblable qu'elle en édita beaucoup moins. En effet, aucun numéro avoisinant la vingtaine et plus n'a été retrouvé à ce jour. Camille Pissarro, lui aussi, raconte comment Marie Cassatte travaille dans une lettre du 25 avril 91 à son fils.
« Je suis allé voir, avant de quitter Paris, Miss Cassatte. Je l'ai vue imprimer ses aquatintes en couleur. Elle procède comme nous l'avons fait, seulement elle ne se sert pas de couleur pure. Elle mélange ses tons, ce qui lui permet de n'avoir besoin que de 2 planches. Il y a à cela un inconvénient de n'avoir pas de tons francs et lumineux. Les tons sont passés et jolis tout de même. Il faudrait faire un essai plus décisif de notre manière pour se rendre compte de ce qui est préférable. »
Quittons maintenant l'atelier du peintre pour admirer ses 10 aquatintes en couleur.
Du côté du musée.
Cette série de 10 gravures colorées, datées de 90-91, pointe sèche, vernis mou, aquatinte, nous dépeint la mère caressant ou mettant au bain son enfant pour 3 d'entre elles. Les exemplaires décrits se trouvent à la Fondation Terra pour l'art américain, TFA, collection Daniel Terra, ou au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France, BNF. Nous pouvons découvrir Enfant nu, dans des tons ocres orangés, 6e état, TFA. Le baiser aux nuances vert d'eau 5e état à la BNF. Bain d'enfant de tonalité ocre jaune et bleu vert pour la bassine 17e état, TFA. Puis Marie grave 2 femmes à leur toilette. L'une, assise dans un fauteuil rayé de rose devant un miroir, relève son chignon. Elle est juste drapée d'un long jupon blanc noué à la taille. Le décor est à motif. Ainsi, femme se coiffant 5e état est à la BNF. L'autre est à sa toilette, le buste dénudé, penché sur sa cuvette d'eau pour les ablutions. Sa robe dégrafée retombe sur ses hanches. Un broc d'eau est posé à terre. Le meuble de toilette est de couleur beige devant un mur en verre grisé. La toilette, scène intimiste, 4e état, se trouve à la Fondation Terra. Degas, en examinant cette gravure, lança à Marie Cassatte.
« Ce dos, vous l'avez modelé ?»
Marie connaît bien Edgar, qui peut devenir admiratif ou incisif parfois. Les 5 dernières estampes décrivent la femme à ses occupations quotidiennes. La lettre, quatrième état, à la BNF, dépeint une personne assise devant son secrétaire ouvert avec une lettre posée. La femme est drapée dans une robe bleue au motif japonisant. Elle porte à ses lèvres une enveloppe à cacheter. Derrière elle, la tapisserie beige est parsemée de feuilles vertes et grises. Le second état, à la BNF également, reprend la même figure au stade préliminaire cette fois. Pas de motif de tapisserie, pas de lettres sur le bureau et un plastron d'un aplat de couleur marron sur la robe. Marie, en perpétuelle recherche picturale, n'hésite pas à reprendre son œuvre pour la faire évoluer, variant le dessin, les coloris. Elle montrera les différentes étapes de son élaboration lors de son exposition de 1893 à Paris. Dans « La lampe », quatrième état TFA, une femme est assise de dos, la tête de profil, un éventail ouvert dans sa main gauche. Elle se trouve devant une sellette sur laquelle est posée la théière et une lampe dotée d'un grand abat-jour beige. Pour la visite, cinquième état, TFA également, une maîtresse de maison reçoit son invité, coiffée d'un chapeau bleu, noué sous le menton à l'heure du thé. Les bordures des tasses et sous-tasses, assiettes et carafes bleues sont soulignées d'un liseré d'or. La BNF détient le septième état de jeune femme essayant une robe. La couturière, dans sa robe marron rayée de noir, est agenouillée au pied d'une jeune femme qui essaye une robe à rayures de couleur claire. Enfin, nous traversons la Seine par le pont Mirabeau dans un omnibus hippomobile en compagnie d'une mère et de la nourrice tenant sur ses genoux, un nourrisson bien emmitouflé et encapuchonné dans son manteau clair. Ce septième état, intérieur d'un tramway passant le pont, est à admirer à la Fondation Terra. Le point commun à toutes ces gravures est un décor sobrement dessiné, aux lignes directes, dont moquettes et tapisseries sont ornées parfois de motifs japonais fleuris. Les grands collectionneurs américains, Lucas, Avery, Evemeyer, feront l'acquisition des estampes de Cassatt, notamment à la succursale de Durand-Ruel à New York à l'automne. Cette série est exposée par la suite aussi, à New York, chez Frédéric Keppel. En France, le marchand d'art Amboise Vollard et Jacques Doucet, couturier, achètent des exemplaires des aquatintes de Cassatt. Louisine Evemeyer retranscrit dans ses mémoires les progrès de la peintre au sujet de ses 10 estampes en couleur. « J'aime faire des gravures en couleur et j'espère que Durand-Ruel mettra les miennes sur le marché à des prix raisonnables, car rien, je crois, n'inspirera davantage le goût pour l'œuvre d'art que la possibilité de l'avoir chez soi. J'aimerais savoir que les amateurs américains puissent avoir un exemplaire de mon travail, une estampe ou une eau-forte pour quelques dollars. C'est ce qui se passe en France. Il n'est pas laissé aux seuls riches d'acheter de l'art. Les gens du peuple, même les pauvres, ont du goût et achètent selon leurs moyens. Et ici, ils peuvent toujours trouver quelque chose à leur portée. » Projetons-nous une quinzaine d'années en avant pour aller découvrir encore quelques portraits d'enfants et scènes maternelles. Jeune garçon en bleu de 1906 est le pastel d'un garçonnet à la chemise bleue, crayonné à grands coups de trait, dont le visage, aux joues roses, est encadré d'une chevelure châtain mi-longue et d'une frange. Encore une fois, Marie s'est appliquée à l'essentiel, c'est-à-dire la figure. Mère et enfant, ou mère allaitant son enfant, est un tableau à l'huile de 1906. Une femme, dans un long déshabillé au motif géométrique, donne le sein à son nourrisson, dont elle tient le pied droit dans sa main. Son modèle s'appelle René Chauvet. Cette jeune femme réside dans le village voisin de son château. Cette toile sera présentée à l'exposition de 1908 à Paris, chez Durand-Ruel, puis en 1909 à Boston. Alexander Stewart en fera don en 1956 à l'Institut de l'Art de Chicago. Enfin, Mère et enfant est une huile sur toile dans une collection privée. C'est un double portrait de face d'une mère vêtue de rose et vert et de sa fillette en robe grise. Cette huile appartenait à Madame Joseph Gardner Cassatt, belle-sœur de la peintre, puis à Mathilde Vallée, et vendue ensuite en 1931 à Paris. René Chauvet lui sert de modèle. Laissons Marie Cassatt à ses innovations en matière d'estampes et retrouvons-la prochainement sur cette même antenne pour une commande outre-Atlantique dans Voyage en terre de couleurs.